Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 2 de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Le titre de cet épisode est Voyage, Voyage. Alors voilà, maintenant que je vais vous coller la chanson de Désirless dans la tête, Voyage, Voyage, en plus de vous la chanter faux, ne me remerciez pas tout de suite, ça fait plaisir. Donc maintenant aussi que je vous ai donné un solide indice sur la thématique du jour, que je pourrais formuler par « Voyager rend-il heureux ? Si oui, comment ? Pourquoi ? Preuve à la pluie ?» Je vous présente sans plus attendre mon invité du jour, Nathalie Vendrisse. Nathalie, bonjour et bienvenue à Café Noir et Tableau Blanc, comment vas-tu?
Ça va bien et merci beaucoup Hélène pour ton invitation.
Alors petit rappel, nos épisodes sont publiés tous les jeudis, sauf quand je suis en retard, et vous les retrouverez sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Apple, Google et sur notre site lebontraitunion.com. L'avantage de passer par le site est que vous profitez de nos notes de podcast complètes dans lesquelles on partage les suggestions de lecture, émissions, références que l'on aborde dans chacun des podcasts. La musique qui nous accompagne, je pense que vous allez commencer à le savoir maintenant, c'est celle de notre ami Soumal, que je ne peux que vous inviter à découvrir, car sa musique, je vous le promets, sa musique fait voyager. Et voilà qui me raccroche au thème de cet épisode. Alors, sans plus attendre, Nathalie, revenons à toi. Je t'ai demandé d'être mon invitée pour la thématique voyage, car s'il y a plusieurs façons de trouver et cultiver le bonheur, le voyage en est une. Et qui plus est, c'est une passion que je partage. Alors tu as fait un tour du monde et vécu en Thaïlande avant de revenir au Canada et tu as posé tes valises non pas à Montréal, ton point de départ, mais plutôt à Monilieu, île du Prince-Édouard. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et l'aventure en elle-même, est-ce que car vous êtes partis en famille, on y reviendra, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pré-départ, car c'est un voyage que tu as préparé bien sûr. Alors qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur de cette aventure?
Alors, le déclencheur, ça a vraiment été le moment où Daniel et moi, on a commencé à faire notre testament. Donc, on écrivait un peu nos souhaits, qu'est-ce qu'on veut, si jamais on disparaissait les deux, qu'est-ce qu'on souhaiterait pour les enfants. Donc, Julien, à ce moment-là, avait 1 an et demi, Mathieu en avait 7 et demi, et on s'est dit, bon, ben nous, ce qu'on voudrait, c'est que la personne qui a la garde des enfants s'assure qu'à tous les ans, amène les enfants ouvrir leurs horizons, découvrir un nouveau pays, goûter à d'autres cultures, pour qu'ils aient cette connaissance de la diversité dans le monde. Et j'avais besoin que mes enfants aient des facettes différentes que celles dans lesquelles nous étions, je veux dire, à Montréal à ce moment-là. Donc, on s'est mis à écrire. Puis là, tout d'un coup, on s'est dit, oui, c'était super. Oui, on est vraiment alignés. On était vraiment contents d'être alignés. Puis on rêvait ensemble. Puis à un moment donné, les deux, on a eu un déclic. On s'est regardé, puis on s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on attend de mourir pour que quelqu'un puisse utiliser nos économies qu'on a travaillé si fort à accumuler pour aller vivre toutes ces belles expériences-là avec nos enfants? Là, on s'est dit, wow, moi j'aimerais ça, moi partir et puis faire ça. Pourquoi on écrit ça dans un testament? Puis il n'y aura jamais de bon moment. Donc à partir de là, on s'est dit, ouais, on s'est un peu alimenté l'un l'autre. Mais après, souvent, ce qui arrive quand on rêve, on essaie de se grounder après. Hein? C'est comme l'espèce de pendant de ça. On dirait qu'on a peur de flotter comme une ballonne à jamais. Fait, là, on s'est dit, oui, mais là, est-ce que c'est le bon timing? Puis il a fallu qu'on se dise, écoute, il n'y aura jamais de bon timing. Est-ce que vraiment, ultimement, on veut mourir et laisser la place à quelqu'un d'autre pour vivre toutes ces belles aventures-là avec nos enfants? Ça serait pas mal stupide. Puis ça a été la graine.
En même temps, c'est quand même très chouette quand on pense à écrire son testament, c'est pour la suite, mais c'est ses volontés, et en même temps, c'est quand même très réjouissant de se dire que vous avez vécu vos volontés de votre vivant, en fait.
Oui, et souvent, avant de partir, parce qu'on a eu beaucoup de... Tu peux t'imaginer qu'on a eu beaucoup de déboires avant de partir, et on a eu toutes sortes de commentaires, toutes sortes de réflexions peu encourageantes, je dois dire. Il a fallu être vraiment têtu et un peu fermer nos oreilles. À un moment donné, on s'est dit, nous, on n'écoute plus personne. C'est le temps d'être têtu et d'être vraiment... enligné et focusé sur notre but, et on n'a pas le temps pour des distractions.
Comme tu disais, c'est que quand on commence à rêver grand, à rêver des projets un peu fous comme ça, qui sonnent un peu fous, aussi bien soi-même, on a des petites voix qui font « Ah, mais tu pourrais pas, mais tu arriveras pas, mais il y a des choses qui vont se faire. » Mais il y a aussi les autres, parce que quand tu annonces à ta famille que tu prends les enfants et hop, on s'en va, forcément, il y a peut-être des fois des critiques en un sens.
Oh oui, des critiques, et des fois, c'est peut-être plus que des critiques. Je me dis, mais ça, tu t'écoutes pas parler, c'est un peu méchant, me semble, là, ce que tu viens de me dire. Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison, Hélène. Quand tu te mets à rêver grand, tu déranges. Tu déranges pas parce que, pour différentes raisons, je veux dire, qui appartiennent aux gens, mais ça fait réagir les gens autour, et des fois même des gens que tu t'imaginerais pas qui réagiraient, et c'est un peu dommage. C'est naturel, mais c'est un peu dommage parce que souvent on a besoin de soutien quand on se lance, parce qu'on se lance pas avec une confiance coulée dans le béton armé, si je peux dire ça. Défaut de profession, mais bref. Et c'est pas nécessairement le cas. En tout cas, nous, on n'a pas vécu ça. S'il y en a qui l'ont vécu, je suis super contente pour eux, mais ça n'a pas été notre expérience.
Puis là, comme tu disais, c'est bon, alors il y a cette petite voix, la peur évidemment d'embarquer dans un projet un peu fou, les regards des autres aussi, de quoi t'enlèves tes enfants de l'école, ça va leur changer de routine, ouais. Un enfant s'aime. Bon, de toute façon, tout le monde s'invente docteur de quelque chose rapidement quand effectivement on se pense à penser grand. Mais moi, je voudrais te ramener à une question qui peut-être fait partie de celles qui ont pu vous ramener et qui était très terre à terre. Tu disais tout à l'heure défaut professionnel en parlant de béton armé. Justement, revenons-y. À la base, Daniel et toi, vous n'êtes pas des hippies qui étaient prêts à tout lâcher et qui vivaient de façon nomade. Vous aviez une vie très établie, une carrière. Comment est-ce que le déclencheur se passe? Puis peut-être, comment est-ce que vous avez utilisé cette carrière, puis cette façon de penser que vous appliquez à la job pour faire ce projet?
Bon, je pense qu'en tant que carrière, on était dans un milieu extra-conventionnel. On était tous les deux dans le milieu corporatif, les deux ingénieurs civils. Vraiment, on a joué le jeu du corporatif, c'est sûr. On aimait ça, là. Je veux dire, le jeu nous plaisait, mais nous faisait aussi en même temps nous poser plein de questions. Pas dans le moment, parce qu'on avait beaucoup de plaisir, on voyageait, puis ce qu'on faisait nous passionnait beaucoup, puis on est extrêmement content d'avoir vécu ça. Mais moi, en tout cas, j'avais de la difficulté à me projeter dans l'avenir. What's next pour moi? Et ce qui était next pour moi n'était pas tellement motivant. Est-ce que j'avais envie de devenir vice-présidente de ci, de ça? Et quand je regardais les gens, je me disais, ben j'ai pas envie de la vie qu'ils ont. Et de toute façon, ils ont l'air de tout avoir, mais ils n'ont pas tellement l'air heureux selon ma définition du bonheur. Et j'aspirais pas nécessairement aux mêmes choses que ces gens-là aspiraient. Donc, oui, ça a été plus difficile pour moi dans un sens parce que Daniel, lui, il était rendu plus près de ça. Il avait déjà pris sa retraite. Bon, il passait à une autre étape. C'était l'aventure, youpi, le vent dans les voiles. Moi, j'étais à une autre étape où est-ce que, bon, c'était une décision de carrière, vraiment de dire, est-ce que je continue dans la lancée que je suis ou vraiment, là, je prends une grande décision et je donne un coup de volant total et je fais un 90 degrés et je m'en vais dans une autre direction. Ça a été dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont compris. Puis, il a fallu une chance qu'on était forts ensemble puis qu'on croyait vraiment en notre capacité de se débrouiller. On ne savait pas comment on allait faire partout puis comment tout allait s'embriquer pour que ça donne une histoire cohérente. Mais on savait que peu importe ce qu'on allait faire face, on était ensemble puis on allait trouver une solution.
Puis c'est intéressant parce que là, si je comprends bien, c'est vraiment un processus, ce départ de voyage. Parce que le processus avec ce déclencheur du testament de « Hey, soyons heureux de notre vivant avec les enfants et puis montrons-leur ce qu'on a envie qu'ils voient. » De, finalement, toi qui dois prendre cette décision de carrière ou de vie, on pourrait dire aussi, de « Qu'est-ce qui va guider ma vie ? Est-ce que c'est mon rationnel ? Est-ce que c'est ma carrière ? Ou est-ce que c'est l'appel que j'ai ?» Et aussi d'aller à, OK, évaluons qu'on va être assez fort pour affronter ce qui s'en vient et finalement s'y mettre, quoi.
Oui, et je pense que ça, c'est hyper important. On le savait avant de partir, d'avoir cette cohésion-là, elle était importante. Même si chacun, on traîne nos bébites, on est chacun dans un chemin personnel, on traîne nos blessures, nos traumas, notre vécu, mais il faut s'assurer que, surtout quand on part avec des enfants, c'est extrêmement important que le couple soit capable de dire, OK, on est sûr de pas grand chose finalement, mais il y a une chose qu'on est sûr, c'est que peu importe ce qui arrive, on fait équipe et on va trouver une solution. Puis on lâchera pas tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Ça, c'était notre base, puis c'est ça qui nous a servi tout au long du voyage, puis en fait, c'était la chose la plus importante.
Est-ce que, avant de vous lancer dans ce projet un peu fou, vous aviez chacun de votre côté ou ensemble des expériences de voyage ? Un peu moins grand, un peu moins long que de partir un tour du monde au grand complet, là on s'entend, mais quand même, est-ce que vous aviez des expériences de voyage ?
Oui. Daniel, lui, dans ses autres relations, avant qu'on soit ensemble, il a voyagé quelques fois, des voyages un peu plus organisés, si je veux dire, pas avec des groupes, mais je veux dire planifiés, avec un horaire, avec un itinéraire, des trucs un peu plus contrôlés. Moi, de mon côté, j'avais déjà, bon, je suis née en Haïti, moi, donc j'ai déjà voyagé. Je suis aussi allée travailler pendant 3 ans en Guadeloupe, et en plus, j'étais allée faire un stage aussi en Guadeloupe. J'ai voyagé à plusieurs endroits aussi avant. Donc, oui, on avait une expérience, mais pas une expérience aussi continue. Et je pense que l'élément marquant, c'est aussi non seulement tu es responsable de ta propre peau, mais tu as aussi 2 petits êtres humains qui sont là, qui ont leurs propres besoins, qu'il faut essayer de combler à travers toutes ces expériences-là d'inconnus. Donc, ça, c'était le challenge qu'on avait.
Justement, là, on parle de puis j'ai hâte de t'entendre sur ce point de partir avec les enfants, on entend de tout. Hein, bonne idée, mauvaise idée. Alors, toi, pour l'avoir fait, vraie bonne idée, fausse bonne idée?
Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Après l'avoir fait, je me dis, ça, si quelqu'un contemple l'idée de voyager puis se dit, ouais, mais j'ai des enfants, justement, vas-y. Parce que je peux dire qu'à plusieurs reprises, où est-ce que nous, on arrivait, puis on était un peu figés dans des situations où on trouvait que ça coinçait un peu, on avait plus de mal à s'adapter. Ce sont les enfants qui nous ont facilité la tâche. Ils nous ont aidés, ils nous ont montré une façon de faire, puis on s'est dit, ben voyons, qu'est-ce qu'on a, nous, à être un petit peu plus constipés là, face à ça? Let's go, on fonce, à prendre plus de risques. Les enfants ont eu tellement de facilité, on a été éblouis tout le long, et ils nous ont vraiment aidés. Donc, c'est pas, il y a pas seulement les parents qui aident les enfants facilitent beaucoup les choses aussi, puis il y a vraiment pas de raison. Moi, je crois qu'il y a vraiment pas de raison d'avoir peur de partir parce qu'on a des enfants. Et Julien, lui, il avait 3 ans quand on est parti. Mathieu en avait 9. Julien est beaucoup plus mollo, go with the flow. Mathieu, bon, il a besoin d'un peu plus d'ancrage. On était très, très inquiets par rapport à ça, comment on allait pouvoir recréer ça tout en étant en mouvement. Mais il est très ouvert, très sociable et puis il est curieux. Donc, chaque enfant a apporté quelque chose de différent et je crois vraiment que c'est pas une raison de ne pas partir.
Est-ce que tu dirais que parce qu'un enfant, de par son jeune âge, a pas nécessairement tous les codes culturels et sociaux de sa culture d'origine, va pouvoir passer des barrières ou des normes, puisque quitte à pas en avoir, il peut en inventer un petit peu, comme tu disais, sur le chemin, go with the flow, avec si j'ai un copain dans la rue qui a l'air d'avoir mon âge puis qui joue. Je vais pas lui dire bonjour, comment ça se passe. Non, un enfant, c'est plus spontané, ça joue, ça passe des codes, ça crée des ponts plus facilement de ce côté-là aussi.
Oui, tu as tout à fait raison, parce que avec le nombre de pays qu'on a visités, c'est pas vrai qu'ils parlaient tous la même langue, mais c'était accessoire pour les enfants, puis on le voyait systématiquement. Ils jouaient avec des petits Grecs, ils jouaient avec des enfants au Kenya, ils jouaient un peu partout, et puis ils pouvaient pas communiquer, mais avec la langue, mais ils arrivaient à se comprendre, ils finissaient par s'asseoir en quelque part, puis là, on les entendait rire, puis on se disait, ben, ils rient de quoi finalement? Ben non, ils ont trouvé un point commun, ils ont trouvé quelque chose à partager, puis ils ont connecté, et la langue, c'était comme pas nécessairement un absolu pour eux, donc c'était fascinant à voir.
Est-ce que tu dirais que quand, peut-être plus encore quand c'est les enfants sont jeunes versus quand un adulte va voyager, mais t'as vraiment vu que le voyage... Parce que peut-être qu'ils sont trop petits pour se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, mais ça les a probablement marqués dans leur éducation, plus que dans le côté souvenir.
Oui. Du côté de Julien, c'était notre crainte de dire, ouais, il y a 3 ans, est-ce qu'il va s'en rappeler? On s'est dit, bon, ben on va essayer de maintenir ça présent en gardant des photos, en lui racontant des histoires pour qu'il l'amène avec lui, ce vécu-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a des souvenirs précis. Il a 12 ans aujourd'hui et il a des souvenirs précis de certaines choses, mais il y a d'autres moments où il s'en rappelle pas trop. Mais ce qui le marque, ce sont les odeurs, c'est la nourriture, les goûts. Et je pense que ce qui l'a marqué, lui, c'est vraiment les façons de faire. Il a une ouverture, une curiosité et un certain regard face à la différence qui est exactement la graine qu'on voulait planter chez nos enfants. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cette expérience-là. On se disait, peu importe ce qu'ils font avec dans leur vie plus tard, mais au moins on veut semer cette graine-là de comprendre qu'il y a plusieurs vérités dans le monde. Que la vérité qu'on vit ici, elle est vraie, de vraie, de vraie pour nous, mais celle que le petit enfant vit, je ne sais pas moi, au Maasai Mara ou qui vit au Sri Lanka et tout ça, c'est aussi vrai, de vrai, de vrai pour lui aussi. Et tout ça coexiste et c'est merveilleux, puis qu'il ne faut pas avoir peur d'aller goûter à ça, parce que la vie, c'est tout ça. Ce n'est pas juste une façon, une couleur. Donc, Julien a gardé ça. Mathieu, de son côté, il va avoir 18 ans cette année. Ce qui m'a parlé dernièrement, c'était plutôt au niveau des manières. Donc ça, c'est sûr que c'est l'éducation, c'est aussi... J'associe ça aussi au fait de vivre en Thaïlande, parce qu'on était dans un milieu où la culture accorde beaucoup d'importance aux manières, aux salutations, au respect, tout ça. Il y a une façon de faire en Thaïlande qui est vraiment, on dirait que c'est dans l'air que les gens respirent, c'est vraiment dans la coutume, dans la façon d'interagir, de parler, juste d'être avec les gens. Et pour lui, ça l'a marqué beaucoup et il me disait que quand il va chez des amis, quand il rencontre les parents de sa nouvelle copine, les commentaires que les gens lui font tout le temps, c'est « Mon Dieu, Mathieu, t'as tellement de belles manières, puis de façons de connecter avec les gens et tout ça. » Donc, j'ose croire que c'est un peu le fruit de toutes ses expériences et ce que lui en a fait et ce qu'il a décidé de garder de ça qui lui sert aujourd'hui de la façon qu'il veut s'en servir, en fait.
Et puis c'est certain que le voyage nous oblige à, comme tu disais, à voir d'autres réalités vraies de vraies de vraies. Et du coup aussi à sortir de notre zone de confort. Et une fois qu'on est sorti de notre zone de confort, une fois pendant le voyage, on ramène ce nouveau périmètre avec nous, un peu en quelque sorte. On redéfinit qui on est, où est-ce que, jusqu'où on peut voir quand on lève les yeux. Fait que ça, c'est probablement la grande richesse. Puis encore une fois, je pense que il y a quelque chose de très sage dans ce que tu disais, où c'est pas grave s'il n'y a pas un souvenir immédiat et attaché à quelque chose de précis, t'as laissé à tes enfants une façon de vivre plus qu'un album photo, en fait.
Tu l'as décrit très, très bien. C'est exactement ça. Ce qu'on voulait, c'est... Parce qu'on ne sait jamais ce que les enfants vont garder d'une expérience. Et même Daniel a gardé des choses différentes de moi de la même expérience. Ce qu'on voulait, tout simplement, c'est de vivre une expérience, déjà les quatre. Je pense que c'était de se mettre les quatre dans une situation aussi de vulnérabilité. Autant les parents que les enfants. On arrivait dans une ville, puis écoute, on n'avait pas de point de repère, on savait où on allait dormir, mais il fallait trouver où manger, où laver nos vêtements, où faire ci, où faire ça. Donc, on était un peu tous un peu démunis et de voir comment ensemble on se débrouillait dans ces situations-là. Mais ça, chacun en tire quelque chose de différent. Et après, c'est toujours « qu'est-ce que t'en fais ?» Qu'est-ce que ça représente plus tard, 5 ans, 10 ans dans ta vie? Qu'est-ce que c'est devenu ce petit truc-là dans une autre réalité? Comment tu t'en sers? Donc, tu le décris très, très bien. C'est vraiment ça qu'on vit.
Avant d'aller plus loin dans l'expérience du voyage comme telle que vous avez vécue, j'aimerais qu'on revienne sur la préparation. Parce qu'évidemment, partir et partir longtemps, ça se prévoit. Alors, j'ai envie de dire, tu parlais tout à l'heure d'un rêve un peu fou. Oui, c'est vrai, l'idée de faire un tour du monde peut caresser bien des gens et les gens vont s'arrêter. Oui, mais comment? Oui, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme tu l'as fait, j'ai un petit peu envie de te prendre comme exemple et de nous dire, alors, par exemple, si tu as des conseils à donner, des petits trucs et astuces, on va dire en quelque sorte, de choses à régler au niveau de la préparation, outre l'excitation hein, qui vient avec, j'imagine, au niveau de l'argent, est-ce que c'était très difficile? Est-ce que c'est aussi difficile que ce qu'on peut se dire, oh là là, je ne vais pas travailler pendant un an, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est plus une question de prévoir? Comment est-ce que vous avez géré ça dans la préparation?
Au niveau financier, c'était un petit peu plus... Moi, c'était mon point d'insécurité. Daniel, lui, c'était « Ouais, let's go! » Je me disais « Ok, oui, moi aussi, je veux let's go, mais comment? » Donc, c'était dans le côté pratique. Et je me dis « Bon, c'est bien de voyager, mais moi, j'aime bien voir après. » Puis finalement, c'est un processus. Puis ça, c'est difficile de donner des conseils dans le sens que ça dépend de la relation qu'on a avec l'argent, ça dépend du confort qu'on a, comment le confort est important dans notre vie, qu'est-ce que le voyage représente par rapport à peut-être le sacrifice que ça peut demander dans certaines situations. Dans notre cas, l'aspect financier m'inquiétait le plus parce qu'on n'avait pas un style de travail qui était nomade. Donc, nous, dans le poste qu'on avait, il fallait être sur place et c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire à distance. Donc, ça posait un problème. Sauf que je me dis, de nos jours, il y a beaucoup de travail qui se fait à distance. Donc, ça facilite tellement les choses que l'aspect financier, on peut toujours s'arranger. Parce que nous, on est parti pour un an et finalement, on est resté 3 ans. On pensait pas qu'on avait les finances pour supporter ça et on n'a pas pu travailler pendant 3 ans. Vraiment, en Thaïlande, on avait un visa de retraité. Je veux dire, on fait des blagues, mais Julien, c'était le premier enfant de 3 ans qui avait un visa de retraité. Je veux dire, c'était vrai. On pouvait pas travailler, donc on a fait du volontariat. Mais tu m'aurais dit ça au départ, Hélène, que j'aurais pu rester 3 ans en Thaïlande. Avec un visa où est-ce que je peux pas travailler, puis ça aurait été correct. Je l'aurais probablement pas cru. Je pense qu'il faut avoir assez d'argent pour assurer un certain temps et au fur et à mesure qu'on avance, essayer d'explorer des opportunités qui vont permettre de prolonger l'expérience. Je pense que c'est comme ça qu'on l'avait abordé parce qu'au fond, on n'était pas supposé d'aller en Thaïlande. Nous, notre but au départ, c'était d'aller en Nouvelle-Calédonie parce que là, on pensait trouver du travail et tout et tout. Et finalement, on ne s'est jamais rendu en Nouvelle-Calédonie. On est resté 3 ans en Thaïlande. Donc, c'est de planifier un morceau. C'est d'accepter qu'il y a un morceau qu'on va planifier, mais il y a un grand bout qui va s'improviser parce qu'au fur et à mesure qu'on voyage, il y a des opportunités, justement, qui vont amener peut-être des ressources financières additionnelles qui vont donner lieu à prolonger l'aventure, mais il change au fur et à mesure qu'on voyage et la façon qu'on voit les choses peuvent changer drôlement aussi. Ce qu'on recherche peut être modifié à travers le voyage. Donc, il faut se laisser un morceau dans le tout qui est de l'inconnu. C'est important. Ça, c'est le seul conseil que je pourrais vraiment donner. À part ça, il faut vraiment s'écouter puis aller avec ce qu'on est capable de faire parce que le niveau de confort est important aussi que chacun se respecte.
Et puis, je pense que tu viens de donner 2 choses importantes. Premièrement, de partir avec un niveau de vie dans lequel aussi on se sent confortable. C'est certain que si on déteste le camping, ne partons pas comme backpackers parce que ça risque de compliquer l'expérience. Et l'autre chose, et j'aime beaucoup et je trouve ça très intéressant de dire prévois-toi un coussin pour les premiers temps et laisse aller la suite. Les opportunités vont arriver. Je trouve que c'est très sage et c'est intéressant. Écoute, j'aime beaucoup ça. Ça redonne espoir de se dire, bon, c'est pas grave si j'ai pas tout pour un an exact. On va voir. Mon autre question, c'est beaucoup de gens vont me dire « Ah oui, mais j'ai la maison, j'ai des attaches. Est-ce que ça se résout facilement ?» Puis là, je te vois qui... Alors, les gens ne te voient pas, mais tu viens de lever les sourcils avec un « Eh là là !»
Alors, « Oh oui !» C'est le plus dur, je veux dire, c'est de se débarrasser de tout ce qu'on a. Parce que nous, on avait une maison super bien positionnée à côté du train de banlieue qui nous amenait à côté du travail au centre-ville de Montréal. On avait un chalet. On avait toutes les bébelles que tu peux imaginer, qu'on peut vouloir avoir, etc. Mais je veux dire, quand tu prends cette décision-là, c'est parce que même tout ça, c'est devenu à un point où est-ce que c'est même pas ça l'enjeu. Donc, c'est facile de se délester. C'est sûr que tu as des petits moments, tu te dis mais une fois que tu as lâché tout ça, je ne peux même pas décrire avec des mots le sentiment de liberté qu'on se sent après cette étape-là. Là. Nous, quand on a fini par faire nos millions de ventes de garage pour essayer de liquider le maximum, louer la maison, louer le chalet, se débarrasser de tout et on s'est ramassé avec chacun un sac à dos, et une valise, et c'était tout, on avait ce sentiment de légèreté, de liberté et cette paix à l'intérieur que, je veux dire, c'est incroyable. On pense qu'il y a plein de choses qui vont nous manquer, mais on a vécu comme ça pendant longtemps. Puis au fait, c'est quand on est revenu ici qu'on s'est dit, ben pourquoi on va chercher les choses qu'on avait entreposées? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et on a eu le traumatisme de ravoir toutes des bébelles, de se sentir envahir par les choses. Donc non, c'est pas... Bon, en tout cas, pour nous, ça n'a pas été difficile. Mais là encore, je pense que je dois nuancer. Ça dépend de la relation qu'on a avec nos choses matérielles.
Puis comme tu dis, c'est... quand la décision est prise du voyage, de partir, l'envie est là et ça peut simplifier bien des décisions qu'en temps normal, entre guillemets, on n'aurait pas nécessairement pris. Puis bon, sachant que des ventes de garage, ça peut être bien pour le fameux coussin financier dont on parlait. Vends tes affaires qui ne te servent plus,
exactement,
fais du cash.
Oui.
Et puis bon, il y a toujours les options de louer des espaces pour entreposer ses affaires.
Tout à fait.
Si jamais il y a besoin, j'imagine.
Mais je pense que c'est pas un point irritant dans toute la préparation. On est tellement excité que ça devient même emmerdant de réaliser qu'il faut faire cette étape et oh, ça risque d'être long finalement.
Alors justement, rentrons dans le côté programme parce que oui, forcément, j'imagine qu'une fois que tu as fait sauter tous les verrous de peur, de sécurité, de critique, d'inconfort et que tu te dis go, on part, le fou est lâché. Et donc comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez embarqué les enfants dans cette préparation? Est-ce que vous leur avez montré un peu sur un globe? Comment est-ce que ça s'est passé, votre préparation?
La toute première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un genre de brainstorm. OK, quel pays nous tenterait? Donc on avait une liste de 50 pays et Julien même, lui, c'était du haut de ses 1 an et demi, 2 ans, lui, il adorait le film Madagascar. Donc c'est sûr, pour lui, il voulait aller au Madagascar. Donc lui, c'est... Donc on prenait les idées de chacun et on les a mis sur une liste et on s'est dit, OK, là, ce qu'on va faire, on s'est rendu, c'était à l'époque où on n'avait pas tant accès à l'Internet et tout ça, donc on s'est rendu à la bibliothèque et on a emprunté énormément de DVD sur la plupart des pays qu'on avait sur notre liste et ça a été de longues séances où est-ce qu'on visionnait tout le monde ensemble, les images, puis là après on avait des discussions, puis c'était comique parce que les enfants étaient quand même jeunes, puis on voulait savoir qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce qui t'a marqué dans la vidéo, est-ce que tu te vois là, est-ce que les gens avaient l'air, tu sais, avaient l'air gentils pour toi, et que... donc un peu adapter le discours à leur niveau, mais ça a généré des soirées. Tu peux t'imaginer le nombre de soirées qu'on a passées à faire ça. Puis on s'est dit, mais qu'on parte ou qu'on parte pas, parce que moi, j'ai eu le doute jusqu'à la fin, je dois avouer. Mais je me dis, juste la préparation, ça nous fait vivre tellement quelque chose d'extraordinaire en famille que ça, c'est un événement en soi. Juste ça, ça nous a rapprochés déjà beaucoup, mais c'était mon insécurité personnelle de dire, bon... Au cas où ça se matérialise pas, ben tu sais, il y a quand même un bon côté. C'est un peu la façon de me rassurer. Mais la préparation, oui, ça inclut les enfants. Oui, ça a été ça. Et après, ça a été vraiment... ça devenait un peu compliqué quand on a réduit notre liste à trouver les endroits, à vraiment trouver qu'est-ce qu'on voulait visiter, tout ça. Et on a fait appel à une agence de voyage qui fait des aventures. C'est pas une agence de voyage, mais c'est des créateurs d'aventures. Et là, on a rencontré des gens qui ont su nous inspirer parce que c'est énorme planifier un voyage autour du monde. C'est pas vrai qu'on peut tout improviser. Donc, on a pris des suggestions et après, on s'est assis ensemble. Puis là, on a fait des choix. Donc ça nous a aidé beaucoup.
Est-ce que vous aviez prévu, puis j'imagine que la réponse va être non, mais je vais poser la question quand même, est-ce que vous aviez prévu l'itinéraire de A à Z avant de partir, à billet d'avion en poche? Est-ce que tout était déjà scellé?
Non, un peu dans le même esprit de ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Tout n'était pas scellé, mais il y avait des étapes, peut-être les 2 premiers mois. Donc, on a passé à peu près 1 mois en camping-car pour visiter les parcs nationaux aux États-Unis. Ça, c'était notre première aventure. Ça, il fallait réserver, il fallait être un peu plus structuré. Mais il y a des endroits où il fallait réserver d'avance, comme au Kenya, il fallait réserver, en Afrique du Sud, il fallait réserver. Donc, il y a des endroits où on savait que si on ne réservait pas, on ne pouvait pas arriver à improviser.
C'était un petit peu comme tes marques de calendrier, dans le fond, qui, eux, étaient les repères que tu avais, mais le reste était malléable entre tout ça.
Oui, Exactement. Oui, exactement. Et c'était bien parce que il y a des endroits où on est arrivé et on a plus ou moins aimé ça. C'était pas tout à fait ce qu'on pensait. Puis finalement, on veut retourner au Guatemala parce qu'on a eu tellement de fun. OK, on retourne au Guatemala. Donc, on a escamoté un truc. On est retourné à d'autres endroits. Donc, je pense qu'il faut vraiment se laisser cette flexibilité-là dans la planification.
Je propose qu'on fasse une petite pause et puis on va aller dans le vif du sujet, le cœur de l'aventure, le voyage en tant que tel juste après. En attendant, je vous propose d'écouter une des chansons du dernier album de Sumar, qui est une chanson coup de cœur pour moi. Oira wa hotaru da yasashii hotaru起きたらこの手の星屑もろくみんなみんな子供にくれてやろうありの町にありの町にくれてやろう Alors, de mon séjour aux États-Unis, je retiens beaucoup de choses de la famille indienne avec qui j'ai vécu et la grand-maman avec qui je regardais les séries de Bollywood. J'allais dire religieusement, ce qui n'est pas si faux, hein, parce qu'elle les regardait en égrenant son mala, donc c'est quand même, il y a un peu de ça. Bref, cette grand-maman m'a dit une fois, devant ma vie d'expatriée, de nomade, rappelle-toi, Hélène, où que tu ailles, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. Alors, celles et ceux qui ont lu certains de mes articles ont peut-être reconnu une formule que j'aime beaucoup, que j'ai déjà mentionnée, mais entre nous, je suis d'accord. Par contre, je crois qu'on peut aussi avoir son arrosoir dans sa valise, et alors, le voyage, on y revient, c'est ce qui aussi nous permet d'ouvrir une porte de bonheur. Nathalie, on était au moment où vous êtes partie, la préparation est faite, vous avez pris ce qu'il fallait comme décision financière, organisationnelle, emmener les enfants dans cette projection. Et là, c'est le départ. Est-ce que tu te souviens de l'aéroport ou de votre premier, du jour du départ?
Oui, je ne pourrai jamais l'oublier, Hélène, parce que c'était le 2 juillet 2012. Et on était tellement excités et on était tous avec notre sac à dos, notre valise. Et ça y est, c'était l'aventure. Et on arrive à l'aéroport à Dorval. Et on arrive au guichet, il était, je pense, 5 heures du matin. Et on donne notre premier billet d'avion et la dame nous regarde et nous dit « Mais ce vol n'existe pas. » Et effectivement, le vol n'existait pas. Donc là, on s'est regardé, Daniel et moi, on a pouffé de rire, on s'est dit « Ça va être vraiment une aventure. » Ça commence bien, on est encore chez nous, puis l'aventure commence. Donc là, on s'est dit « Bon, écoutez, il doit bien y avoir un vol pour nous amener à tel endroit parce qu'on s'en allait à Salt Lake City. » Puis on s'est dit, il doit bien y avoir un vol. Il y a dû avoir une erreur. Nous, on a le billet d'avion. Donc, s'il vous plaît, trouvez-nous n'importe quel billet d'avion pour nous rendre à Salt Lake City. On n'a pas de contraintes de temps. On est très flexible. On veut juste se rendre à Salt Lake City, peu importe l'heure. Et on s'est dit, à ce moment-là, c'est l'attitude qu'on doit adopter. Parce que si on commence à être rigide, on va casser. Donc, on doit être souple.
C'était un baptême du feu.
Oui, c'est ça. Donc, ça a été notre départ. Et on s'est dit, on va aussi entraîner les enfants dans cet état d'esprit-là, en faire une blague, dire c'est l'aventure, regardez, là, il y a un défi, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on essaie de le rendre comme un jeu agréable, comme quelque chose de fun. Donc, ça commençait aussi par le fait que nous, on ne paniquait pas.
C'est ça. Puis vous preniez bien la nouvelle. De pas se fâcher.
Oui, parce que là, on s'est mis à rire. C'était trop gros. On s'est regardé, puis on a pouffé de rire. On s'est dit, OK, on est pour c'est l'aventure qu'on a choisie. That's what you're gonna get. Donc, c'est comme ça qu'a commencé notre tour du monde avec un mauvais billet d'avion et un vol inexistant.
Mais du coup, vous avez quand même pu aller à Salt Lake City dans des délais raisonnables.
Ah oui, oui. Oui, puis les enfants étaient super excités parce qu'ils ont pris l'avion avec l'entraîneur du Canadien à ce moment-là, qui était Guy Carbonneau. Donc, tout le monde était « Wow, youpi, une chance qu'on a manqué l'autre avion ou qu'il n'existait pas, là, on est avec l'entraîneur. » Donc, finalement, ça n'a rien changé. Puis, c'est comme ça qu'on a commencé ce périple.
Première belle leçon de vie, ce que tu as prévu n'arrive pas, donne la chance à ce qui se présentera parce que ça peut être mieux que ce que tu espérais, en fait.
Tout à fait. Et c'est comme ça aussi, Hélène, avec cette même phrase-là, qu'on est arrivé en Thaïlande, parce que Thaïlande faisait même pas partie de notre liste de pays à visiter. Donc, on avait une amie qui habitait au Vietnam, à Hanoï, et on devrait aller à Hanoï. Et elle a, tout d'un coup, il y a eu une difficulté dans son couple, elle est revenue à Chiang Mai, en Thaïlande, puis on voulait absolument la voir. Et on s'est dit, bon, ben OK, on va changer notre itinéraire, on va changer notre trajet. On va absolument aller te voir. On est en Asie. Je peux pas ne pas te voir.
On est voisins sur le coup.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Chiang Mai. Et c'est comme ça, ça a été le début de 3 années. On n'était même pas supposé d'aller dans ce pays-là, selon l'itinéraire officiel.
Je te ramène à l'itinéraire officiel, justement, avant qu'on arrive en Thaïlande. tu parlais des États-Unis, donc vous avez commencé par là. Est-ce qu'il y a eu des lieux, des destinations qui ont été plus marquantes? Et est-ce que les destinations marquantes pour toi ont été les mêmes pour tous dans la famille? Est-ce que vous avez tous été marqués par les mêmes destinations?
Aux États-Unis, tu parles? Ben, ou globalement?
Globalement, en général, j'imagine qu'aux États-Unis, vous avez quand même dû voir des choses magnifiques. Est-ce que, d'ailleurs, si tu veux qu'on commence par les États-Unis, commençons par les États-Unis. Pourquoi avoir commencé par le voisin du Canada? Est-ce que c'était pour être dans un cadre similaire?
Non, pas du tout. On cherchait surtout pas un cadre similaire. Ça, c'était pas notre objectif. C'était l'expérience de vie en camping-car avec les enfants. Ça, c'était quelque chose que les enfants avaient comme désir et nous aussi. Donc, on s'est dit, oui, on se fait un trip camping-car. Puis, tant qu'à le faire, on va faire quelques parcs nationaux dans l'Ouest américain. Le parc qui nous a marqué le plus, c'est évidemment Yellowstone. On a beaucoup aimé ça. On a beaucoup aimé notre passage à Death Valley aussi parce que c'est le passage où est-ce qu'on était là et il y a eu une pluie torrentielle. On s'est dit, OK, c'est supposé d'être le désert. Puis, il n'y a plus à boire de boue. Donc, on était super crampé. Et Daniel, lui, c'était San Francisco. C'est sa ville fétiche. Et on a partagé ce bonheur avec lui. Donc, on était contents aussi. Mais pour lui, ça avait une valeur significative. Donc, oui, chacun, on a trouvé des choses différentes.
Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, vous l'avez accompagné dans cette impression, cette sensation qu'il avait. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ce que je veux dire, c'est que pour lui, dès le départ, il nous avait dit « Moi, San Francisco, c'est ma ville. D'ici, il y a une ville au monde que j'adore, c'est San Francisco. » Donc, on savait que c'était sacré pour lui. Moi, je connaissais pas du tout, les enfants non plus, évidemment. Donc, quand on est arrivé à San Francisco, on savait que c'était son « wow moment ». Et on avait décidé qu'on devait arriver à San Francisco pour célébrer son anniversaire. Et on allait voir un match de baseball à son anniversaire. Donc, c'était comme la destination qui était vraiment pour lui faire plaisir, répondre à un de ses big wow dans cette aventure-là. Donc, on a partagé un peu avec lui son émerveillement. Puis, on le voyait heureux. Donc, nous aussi, on était heureux. Puis, on s'amusait à découvrir ce qui le rendait heureux, en fait.
Et puis, point très intéressant, quand tu pars tout seul, tu te fais plaisir à toi, mais quand tu pars à plusieurs, certains compromis sont importants. Puis là, justement, d'embarquer dans la joie d'une personne pour qui cette étape en particulier est importante, c'est aussi, j'imagine, essentiel pour le bien-être de tout l'équipage.
Oui, oui. Puis en fait, ça nous fait vivre un bonheur aussi parce que on le voit tellement heureux, mais avant que tu sois là avec lui, tu comprends pas trop pourquoi cette ville-là plus qu'une autre, mais quand tu vois que la personne rayonne, puis elle flotte presque parce que ça représente quelque chose d'important pour cette personne-là, tu comprends pas nécessairement tous les détails, mais je pense que c'est même pas important. C'est juste de voir comment cette personne-là vibre d'une autre façon. T'as envie de supporter ça, t'as envie de prendre part à ça. Ça, ce sont des moments exceptionnels à partager, pas juste en voyage, mais quand tu peux partager ça, c'est aussi, c'est fantastique.
Alors justement, pour en revenir un petit peu à la question initiale, puis Puis je pense que ça répond en quelque sorte, mais est-ce qu'il y a des destinations qui ont été des coups de cœur, j'ai envie de dire unanimes, pour les parents et les enfants ? Est-ce qu'il y a des destinations qui, au contraire, ont plus parlé à l'un qu'à l'autre ?
C'est dur de choisir, mais il y en a eu plusieurs qui ont été unanimes. Notre vécu au Maasai Mara, au Kenya, où est-ce qu'on a fait des safaris, que ce soit en ballon ou en jeep, ou qu'on a fait un safari de nuit ou des trucs comme ça, ou que le soir, on dormait puis qu'on se faisait réveiller parce que les hippopotames décidaient de faire le party en sautant dans la rivière juste à côté de notre tente. Je veux dire, ça, c'est indéniable. On va emporter ce moment-là dans notre tombe. Même Julien, même s'il y avait 3 ans, il va s'en rappeler jusqu'à sa mort. Ça, on se le dit et j'en parle, j'ai encore la chair de poule. Donc ça, c'est unanime. Aussi, quand on était aux Philippines, on a vécu sur des maisons qui étaient sur pilotis en plein milieu de la mer. Donc vraiment sur une plateforme avec des maisons en pilotis. Ça, c'était tellement unique que ça aussi, ça nous a marqué. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Le ciel étoilé le soir et comment on s'est senti tout petit, mais aussi tellement soudés les quatre. Donc ça, c'est unanime, ces deux points-là. Il y en a d'autres aussi, mais je pense que ces deux-là sont des vrais grands points qui flashaient. Pour moi, ça a été en Afrique du Sud. Je suis très admirative, si je peux dire ça, en admiration envers Nelson Mandela. J'ai lu beaucoup sur lui, sur sa vie. J'ai une connexion particulière avec cet homme-là. Je ne sais pas, il y en a qui diraient qu'on a une vibration qui connecte. Et pour moi, c'était important un peu de retracer des points marquants. Il était vivant à cette époque-là. C'était avant son décès. Et c'était important pour moi de faire un genre de périple sur son vécu et tout ça que je connaissais très bien, mais d'aller dans ces endroits-là. Donc, pour moi, quand je suis allée à Robben Island, quand j'ai visité la prison, quand j'ai pu rencontrer un ex-prisonnier qui a tenu la main de mes enfants, qui nous a parlé, quand mes enfants sont rentrés dans la cellule de Nelson Mandela, pour moi, je veux dire, j'étais dans un état second, je veux dire, j'étais émotive, j'avais la chair de poule, je vivais quelque chose d'un autre ordre. Donc ça, pour moi, c'est sûr que ça m'a marquée. J'ai parlé de Daniel pour les enfants. Pour Julien, je crois que c'est la Thaïlande.
Je t'écoute, puis j'ai l'impression qu'il y a une partie que vous avez fait qui était du voyage, une partie qui était peut-être de l'ordre de l'expédition, une partie qui était peut-être de l'ordre de pèlerinage aussi. Est-ce que tous ces types de voyages se sont retrouvés dans ces pérégrinations de la famille ?
C'est vrai, oui. Maintenant que tu l'approches de cet angle-là, je dirais oui, tout à fait. C'est vrai parce que c'était, oui, du tourisme, c'était, oui, du pèlerinage, il y avait un truc... même spirituel, je veux dire, au Guatemala, on a rencontré un chaman, on a fait des cérémonies, des trucs comme ça. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais dit, attends un peu, je sais pas, mais ça faisait partie du parcours et on s'est laissé emporter par ce qui s'est présenté à nous. Donc oui, c'était tous ces types de voyages-là, Hélène, tu as entièrement raison.
Alors si on essaie de...
Mais non planifié.
C'est ça, go with the flow.
Go with the flow, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et il faut l'accepter. Je veux dire, go with the flow, ça comporte plein de trucs, mais ça comporte tellement de choses qui peuvent dépasser ce qu'on peut imaginer. Et c'est merveilleux aussi, ça nous amène où est-ce qu'on n'a pas, on ne peut pas planifier de toute façon, parce qu'on ne sait pas que ça existe.
Peut-être qu'avec les yeux avec lesquels vous partiez, il y avait un côté « ceci est une prise de risque » et en fait, c'était peut-être une prise de chance.
Oui, j'aime ça. Oui, j'adore la façon que tu mets ça. Oui, c'est une prise de chance. J'adore le son de ça. Oui, c'est vrai. J'aime bien ça. J'aime mieux ça, prise de risque, finalement.
On se donne une chance à ce qui arrive.
Oui.
Évidemment, les voyages, puis là, on avait discuté un petit peu pour préparer ce podcast et tu me disais, ça fait revenir des souvenirs. Bien sûr, il y a eu l'aventure vécue, il y a eu aussi ce que tu en as retiré, les choses que vous aviez consignées dans le site sur lequel la famille pouvait vous suivre. De relire tout ça, ça t'a replongé là-dedans et tu m'en parlais avec un grand sourire et c'est un petit peu pour ça que j'avais dit, pour moi, le voyage peut être, pour certaines personnes, une source de bonheur parce qu'effectivement, ça remonte l'estime de soi, on découvre de nouvelles choses, on est très stimulé. Mais le voyage, c'est pas que du glamour, c'est pas que des choses faciles. On en a un petit peu parlé au début, ça va dépendre de l'attitude aussi beaucoup que tu vas avoir. À ce sujet, après un an de pérégrination avant d'arriver en Thaïlande, puis on va en parler de la Thaïlande parce que j'y tiens absolument, c'est quand même une étape qui s'était prolongée, c'est assez étonnant. Mais pour en revenir au voyage en tant que tel, il faut être prêt à accepter que tout ne se passe pas bien.
Exactement. Et tout se passe rarement exactement comme on a planifié. D'où l'importance d'être flexible et d'être capable de go with the flow. Je sais que ça fait, OK, on l'entend partout, mais c'est tellement vrai aussi. S'il y avait un autre mot pour le dire, je l'utiliserais. Je veux pas tomber dans les clichés, mais c'est vraiment ça. C'est de dire, bon, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais j'y vais, puis je veux voir. Si jamais ça se passe pas comme ça, il y a peut-être d'autres choses que je peux explorer. Puis qui sait, peut-être que c'est mieux que ce que j'avais imaginé, ou peut-être pas, mais je vais en faire l'expérience, puis je vais rester ouverte. Je pense que c'est juste, ben je dis juste, mais tout ça en même temps qu'il faut pour se lancer en aventure, c'est pas nécessairement, ça demande pas des qualités de surhumain et tout, mais cet aspect-là est vraiment l'aspect le plus important, d'apprendre à composer avec l'incertitude.
Et même une situation d'inconfort peut t'amener à apprécier d'autant plus la situation de confort d'après que tu vas vivre plus tard, parce que
tout à fait.
Rien ne dure, quoi. Tout passe.
Tout à fait. Puis c'est bien de le préciser parce que, tu vois, j'apprécie beaucoup l'opportunité de partager cette expérience-là parce que je suis pas quelqu'un qui va me promener puis dire « Ah ouais, moi j'ai fait le tour du monde avec mes enfants, blablabla. » Non, rares sont les gens qui le savent. C'est vraiment des gens qui sont près de moi parce que je trouve qu'il y a une connotation de glamour. Et après avoir vécu ça, je me dis « C'est tout sauf ça. » C'est tout sauf ça parce qu'il y a eu des moments vraiment où j'ai trouvé ça difficile. Il y a des moments où on a pleuré. Il y a des moments où on se sentait dévasté. Il y a des moments où on se dit, mais j'ai aucune espèce d'idée quoi faire. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire quoi faire? Puis finalement, il n'y en avait pas de voix pour me dire quoi faire. Et on est face à soi-même. Puis bon, il fallait que je compose avec mon insécurité. Donc, on est vraiment, c'est le rendez-vous, oui, avec d'autres. Oui, on fait du tourisme, mais c'est aussi beaucoup le rendez-vous avec soi-même. On est face à soi-même et on compte sur soi-même. Oui, je compte sur Daniel, mais en même temps, c'est tellement, on fait face à nos propres limites et on a toujours l'opportunité de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tombe dans la peur? Est-ce que je tombe dans l'insécurité? Est-ce que j'avance même si je suis pas sûre? Est-ce que je fonce la tête baissée? On est constamment sollicité à prendre une décision comme ça et il y a pas de parachute, là. Tu y vas, puis tu manges la conséquence. Soit elle est douce, soit elle est amère, ou soit franchement, c'est du poison. Tu te débrouilles. Mais c'est ça la vie, en fait. Pour moi, c'est devenu ça, la vie. Ce buffet-là, et de pas avoir peur d'y goûter.
Justement, parlons de menu, parlons de cartes, parlons de plans, parlons d'imprévus. Juste pour peut-être bien comprendre à ce stade-ci, est-ce que tu peux nous tracer brièvement l'itinéraire que vous avez fait jusqu'à arriver à la Thaïlande?
On est parti, donc on a mentionné les États-Unis. Je nommerai pas les parcs, mais on a fait les parcs nationaux de l'Ouest. Ensuite, on est allé au Guatemala. On est allé vivre dans une famille maya au lac Atitlan. Ensuite, on est allé au Costa Rica. Et là, je crois qu'on avait vraiment mal ciblé. On n'a vraiment pas aimé. Donc, on est retourné au Guatemala. Ensuite, on est allé au Pérou, on est allé en Argentine, on a fait un saut à Buenos Aires, mais je voulais vraiment aller à Ushuaia, donc vraiment à la pointe. Ensuite, on a piqué de Buenos Aires jusqu'à Paris. Donc, Mathieu, lui, voulait voir mon plus grand, lui, voulait voir la Tour Eiffel. Donc, on est allé à Paris et il est allé voir la Tour Eiffel, il était heureux. Ensuite, on est allé en Islande et le Portugal, la Grèce. On est passé un peu de temps à Athènes, mais on a passé surtout à peu près un mois à Santorini. Ensuite, on est allé en Italie, on a vécu dans une fattoria, donc sur une ferme. Où est-ce qu'on a pu se poser parce qu'il fallait faire l'école aussi, là c'était pas juste du tourisme, il fallait faire l'école, le homeschooling, donc il y avait des temps où on passait un mois à un endroit ou plus pour être capable d'avancer un peu. Donc on est allé à la fattoria, on a fait bien sûr Venise, Pise, des endroits comme ça, et ensuite de là on est allé au Kenya, on est resté un peu à Nairobi, et après on est allé au Masai Mara pour tout ce qui était des safaris. Ensuite, on est allé en Afrique du Sud. Et là, on a passé beaucoup de temps parce que on s'est dit en Afrique du Sud, c'était vraiment mon pays fétiche. Donc, on a loué une voiture, on est parti du nord et on a conduit du nord, on est parti du KwaZulu-Natal qui est en haut, et on a vraiment descendu toute la côte jusqu'à Cape Town. Et on s'est arrêté à plusieurs endroits, donc on voulait vraiment apprécier le paysage, connecter avec les gens, goûter un peu à cette culture qui me fascinait depuis tellement d'années, que j'ai lu tellement sur l'Afrique du Sud. Donc on a fait ça. De l'Afrique du Sud, on s'est rendu au Sri Lanka, où est-ce qu'on s'est posé là aussi. Et du Sri Lanka, on est allé en Thaïlande en visite pour visiter mon ami. Et finalement, on avait déjà des billets pour le Vietnam et les Philippines. On avait nos trucs. Donc, on a dit, attends-nous, on a trouvé l'école des enfants, on a trouvé une maison, on a trouvé tout ce qu'il fallait. On revient dans à peu près un mois et demi. On continue notre périple et on est retourné en Thaïlande. Et c'est là que l'aventure en Thaïlande s'est passée. On a quand même poursuivi aussi en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, comme ça. Mais on ne s'est pas rendu en Océanie, qui était notre dernière partie. On a carrément laissé tomber ce bout-là. Donc, c'est un peu l'itinéraire.
Et donc, arrive dans ce voyage une bifurcation, on va dire. Appelons-le comme ça. Une bifurcation qui est la bifurcation de la Thaïlande, finalement, by l'Océanie, mais aussi peut-être by la carrière que tu avais comme elle était. Et tu t'es lancée à ce moment-là dans l'ostéopathie. Alors, comment ça arrive? Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit « Ah bah oui, tiens, je vais poser mes valises plus longtemps ici qu'ailleurs. »
Poser les valises plus longtemps, ça a été l'école qu'on a trouvée pour les enfants. Donc, quand on est allé pour 2-3 semaines juste pour visiter mon amie qui était rendue maintenant à Chiang Mai, elle nous a dit « Ah, Nathalie, faut-tu voir, t'es à l'école, c'est vraiment extraordinaire. » Je me suis dit « Ok, let's go. » Et je suis arrivée dans cette école, et c'était une école bouddhiste. C'était une école, bouddhiste, mais c'était avec des principes bouddhistes qui étaient bilingues. Donc, c'était anglais et thaï. C'était construit entièrement en bambou et les murs étaient faits en boue avec du bran de riz, donc les pailles de riz. Il y avait tout un concept écologique. Et les enfants allaient à l'école pieds nus, ils leur apprenaient à planter le riz, ils leur apprenaient à récolter le coton, à filer le coton. Et en même temps, ils faisaient des mathématiques, ils faisaient des trucs, ils faisaient tout ce qu'on fait à l'école, mais d'une façon tellement géniale. Et c'était vraiment focusé sur la nature. Donc, ça leur donnait une opportunité que je trouvais qui était extraordinaire. Donc, ça a été notre déclencheur de dire, OK, on leur offre cette opportunité-là au moins d'un an. Ils vont s'immerger avec d'autres enfants de leur âge. Ils vont connaître cette école-là. Ils vont grimper aux arbres à la récréation. Ils vont aller à l'école pieds nus. Ils vont s'asseoir à terre pour manger. Ils vont apprendre à faire leur vaisselle après leur lunch. Je veux dire, c'était une expérience qu'on trouvait extraordinaire et c'est un cadeau qu'on voulait offrir à nos enfants. Donc, ça a commencé comme ça. Puis finalement, on a adoré parce qu'on s'est fait plein d'amis, on a rencontré plein de gens. Et finalement, ça nous a changé complètement. Ça nous a... Et je me suis dit, bon, moi, je ne me vois pas la tête à retourner travailler chez Bell Canada en ingénierie. J'ai prolongé mon congé sabbatique et après 2 fois, je me suis dit, bon, je vais m'essayer pour une 3e fois, mais je ne pense pas que ça va marcher, mais qui n'essaye rien à rien. Ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, c'est le temps. Je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Et j'avais déjà commencé à expérimenter... tout ce qui est travail du corps. Donc, le massage, c'est quelque chose de très intégré dans la vie quotidienne des gens en Thaïlande. Le toucher est important. Donc, j'avais été éveillée à ça. J'étais déjà attirée à ça. Et finalement, j'ai donné ma démission et j'ai commencé à prendre de plus en plus de cours dans ce domaine-là et ça m'a amenée vers l'ostéopathie. Je le raconte facilement, Hélène, mais tu peux t'imaginer que c'est un long processus. J'ai eu beaucoup de up and down, j'ai été vraiment au bas fond de mon histoire et il a fallu que je me donne des bons coups de pied au bon endroit pour remonter parce que ça a été une transition difficile, mais qui était nécessaire. Je savais que c'était nécessaire parce que je t'ai rendue ailleurs. Donc, je voudrais pas que les gens pensent que c'est un processus qui se fait « Ah, moi, je change de carrière, let's go! » Puis là, wow, je me retrouve à faire de l'ostéopathie, puis tout cool. C'est pas nécessairement ça, mais c'est que la motivation était assez grande pour passer à travers ce processus-là et laisser en arrière ce que j'avais, ce que je connaissais, et de plonger vraiment dans quelque chose de différent.
Et puis, je pense que c'est important de souligner que accéder à des moments plus agréables, des moments où on se sent plus aligné, accéder à un certain bonheur, ça passe aussi par des moments difficiles, des moments de remise en question, des moments désagréables qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Et effectivement, mais je trouve ça drôle en un sens quand on y pense. Il y en a qui envoient des cartes postales quand ils sont à l'étranger, en voyage. Toi, t'as envoyé ta lettre de démission. C'est quand même sympa. Je tiens quand même à dire. Non,
mais c'est... J'avoue que j'avais...
Quitte à pas faire comme tout le monde, j'ai bien compris.
Mais, oui, mais j'avoue.
Mais je pense que c'est vrai que c'est important l'état de bonheur ou des contentements ou le positif qu'on en tire après. Parfois, la mémoire nous aide à ce qu'on on bonifie des souvenirs de moments qui se sont passés, qui n'étaient pas forcément évidents non plus à passer au travers. Après ces 3 ans de Thaïlande, donc, les enfants ont fait cette école, tu as fait tes classes, entre guillemets, et toi aussi, parce que tu es devenue ostéopathe, et vous décidez de rentrer au pays. Et vous ne rentrez pas à Montréal, d'où vous êtes partie, mais vous arrivez sur l'île du Prince-Édouard. Comment ça?
J'avoue que ça sonne un peu curieux dit comme ça. Mais la vie est comme ça, je veux dire. On planifie, puis tout a l'air bien sur papier, puis tout d'un coup, il y a une déchirure sur le papier, puis là, il y a quelque chose qui s'envole au vent. Mais c'est un peu comme ça, en fait... La vie qu'on avait connue et qu'on avait, qui nous avait rejoint en Thaïlande avait changé beaucoup en 3 ans. Il y a beaucoup de croissance, beaucoup de pollution, beaucoup de la dynamique était différente et ça correspondait un peu moins à le genre de vie qu'on voulait mener. Et on s'est dit, bon, ben, tôt ou tard, il va falloir penser à notre prochaine étape parce qu'il y en a une prochaine étape. On reste pas ici, on commence pas à prendre racine. Donc, Daniel était déjà venu ici à l'île du Prince-Édouard parce que pour son travail ou pour jouer au golf, je crois. Et lui, il disait, bon, ben, si on retourne au Canada, moi, je me vois pas retourner à Montréal. Moi, je me disais, moi non plus. Je veux pas reprendre la vie d'avant parce que, écoute, on est différents. Je veux dire, on serait même plus capable de refaire ça. Et on s'est dit, lui, il me dit, bon, ben, si on retourne, on pourrait essayer l'île du Prince-Édouard. Moi, je pense que ça serait un bon endroit. La nature et tout ça, il y a la mer. C'est un rythme un peu plus en harmonie avec la nature. On a le temps de vivre. On n'est pas comme des robots à courir je ne sais où. Puis on a dit oui. On a hésité entre, c'était la Nouvelle-Zélande, soit Béziers en France, ou l'île du Prince-Édouard. Oui, je sais, Béziers. Béziers, parce qu'on a le sud de la France.
Pardon?
Oui, tout à fait. Le sud de la France, on était d'accord. Pourquoi Béziers? Parce que on avait des amis qui étaient là et qu'on... On disait, bon, c'est dans le sud de la France, c'est bon, on va aller voir, je suis allée voir. Et puis bon, c'était peut-être pas tout à fait ce qui nous aurait convenu à ce moment-là. Donc, on a dit, allez hop, c'est l'île du Prince-Édouard. Et on a fait ça vraiment rapidement parce que moi, je commençais mes études en ostéopathie et je dis, regardez, moi... Tant que vous êtes bien, moi, je vais avoir le nez dans mes livres. Puis moi, je veux savoir que tout le monde va bien. Moi, que j'étudie en l'île du Prince-Édouard à Béziers, en Nouvelle-Zélande, je vais très absorber les prochaines années. Donc,
choisissez une place qui vous convient, quoi.
C'est ça. Et puis, de toute façon, on s'est adapté dans tant de pays. Regarde, on va le faire, notre bonheur. Oui. C'est ça. Et au fond, c'est que peu importe où on est, tant qu'on est ensemble, et c'est à nous de créer le bonheur. C'est pas les gens, c'est pas nécessairement l'endroit. C'est nous, comment on voit ça, comment on se sent et qu'est-ce qu'on a le goût de vivre qui va générer ce bonheur-là, qui va faire qu'on est bien.
T'emmènes ton arrosoir avec toi dans ta valise, puis t'arroses ton herbe pour qu'elle soit plus verte.
Exactement. J'adore cette image, Hélène.
Alors, évidemment, entre-temps, il y a eu la COVID. Voyager était rendu plus compliqué. Là, on parle de peut-être des réouvertures de frontières, etc. Comment voyager quand on ne peut pas changer de pays? Moi, j'ai beaucoup voyagé, je dirais, dans les livres, peut-être. Alors, parmi mes livres préférés de voyage et qui m'ont emmenée ailleurs, il y en a un qui s'appelle « L'usage du monde » que je t'ai offert, de Nicolas Bouvier, que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un éloge au voyage de l'imprévu, de la lenteur, de décisions prises sur le vite parfois. Et bon, effectivement, il faut quand même assumer les conséquences. Il y a un autre livre que moi j'aime beaucoup qui m'a emmenée voyager. Et je me souviens quand je l'ai lu la première fois, je devais avoir 18 ans. Et en fermant le livre, je me suis dit « Oh !» Ouais, je vais prendre une vie comme ça, moi, s'il vous plaît. C'est J'avoue que j'ai vécu, qui est l'autobiographie de Pablo Neruda. Parmi les autres bouquins qui m'emmènent voyager, beaucoup les romans japonais qui ont un rythme très différent, La péninsule aux 24 saisons, des choses comme ça. Il y a un livre que j'ai offert à Mario qui s'appelle Where and When. Et l'idée, c'est que tu prends un mois et il te dit quelle destination est idéale ce mois-là. Donc, laissez-moi vous dire que j'ai corné les pages. Est-ce que tu as des livres, toi, que tu aimes particulièrement, qui t'ont fait voyager, qui t'emmènent ailleurs?
Un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est Le Safari de la vie de John Strickley, je crois, qui a écrit aussi Le Y Café. Le Safari de la vie, c'est l'histoire d'un homme qui est d'un Américain qui se rend, je me rappelle plus quel pays en Afrique, et qui rencontre cette dame Mama Gombe, qui est en fait, qui devient sa, c'est une vieille dame qui devient sa guide, et il entreprend d'aller faire un safari à pied avec Mama Gombe pour découvrir les Big Five. Puis à travers ce safari là, il apprend des leçons de sagesse de la vie. Donc pour moi, ça me fait voyager, ça m'a fait découvrir un peu la nature en Afrique et tout, mais aussi rattaché à une sagesse de vie. Sinon, des livres de voyage en tant que tel, pas vraiment, je dois dire, Hélène.
Pas voyager en vrai.
Oui, c'est plutôt ça, j'ai voyagé en vrai. Je voyage à travers les histoires des gens. J'ai été longtemps abonnée aux Grands Explorateurs quand j'habitais dans la région de Montréal. Ça, pendant des années, je me rendais puis je suivais ces gens-là. Donc, c'était peut-être pas des livres, mais je me nourrissais autrement par les récits des autres, probablement.
Oui, puis il y a peut-être une autre façon de voyager encore, qui est les recettes. J'imagine qu'il y a des... Après 3 ans en Thaïlande, vous avez dû rester quand même marqué, notamment peut-être ton plus jeune, on en parlait, avec des saveurs, des choses particulières qui vous ramènent là-bas.
Oh oui, oui. Quand on mange la nourriture thaï, c'est souvent silencieux autour de la table ou quand on en mange, parce qu'on dirait qu'on est tous en méditation, on est plongé dans nos souvenirs, les goûts nous ramènent. C'est vraiment drôle à chaque fois parce que on sourit puis on se regarde puis on se dit oh, on dit pas un mot, ben c'est pas le temps de dire un mot. On est perdu dans nos souvenirs. Donc la nourriture thaï, la nourriture indienne aussi et la nourriture italienne. Donc ça, ce sont les trois pour nous qui nous font voyager. Qui nous ramène carrément dans des instants précis qu'on a partagés.
Oui, parce que c'est peut-être la beauté du voyage, justement, c'est de nous offrir des souvenirs et donc de garder quelque chose d'intemporel qu'on va continuer d'emmener. Écoute, Nathalie, merci beaucoup de m'avoir fait rêver, repartir, voyager, reprendre ma valise le temps de ce podcast. Avec toi, comme disait ta carte d'anniversaire, eh bien, let's tell my Louise that shit. Alors, c'est un peu comme une invitation, car le voyage, c'est aussi les gens et les compagnons de route. Alors, si tu veux, eh bien, planifiant la route, le reste suivra. Si on part, toi et moi, en voyage, promis, on vous racontera ça, chers auditeurs, chères auditrices. Nathalie, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Hélène, de me permettre de partager ça et ça me fait toujours plaisir de te parler.
Alors voilà, on arrive déjà à destination, la fin de cet épisode sur le voyage. Quand j'étais petite, je faisais du globe avec mon papa, je le faisais tourner, puis on s'arrêtait voir le pays. Est-ce qu'il l'avait vu dans ses voyages de marin? Est-ce qu'il était dans mes livres? Oui, parce qu'à l'époque, au risque de trahir mon âge, je n'avais pas Google. Hein. Mais comme je dis dans le documentaire sur notre rencontre avec Soumar, le monde n'est pas fait de pixels. Il est fait de fatigue, de sourires, de noms qu'on ne sait pas lire et d'amis que l'on se fait sur le chemin. Alors quand viendra le temps, mes amis, vous aussi, allez-y, voyagez. Que ce soit dans votre champ, dans votre ville, dans votre pays ou à l'étranger. Ouvrez les yeux nouveaux sur la vie. Donnez-vous la chance, le luxe, le bonheur de papillonner et d'avoir des papillons dans le ventre. Autorisez-vous à tomber en amour avec la terre, la mer, les gens sur votre chemin, vous-même peut-être. Changez d'air, de paradigme, de façon de faire. Adoptez-en de nouvelles, revenez-en vôtres, mais essayez. S'il vous plaît, respirez, vivez, changez d'air. Vous pouvez retrouver toutes nos notes de podcast sur le site de lebontrédunion.com, rubrique podcast avec toutes nos références que nous avons mentionnées, les livres dont j'ai parlé et ceux de Nathalie. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de Café Noir et Tableau Blanc sur Spotify, Apple ou le site de lebontrédunion.com, rubrique podcast. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. この街の小さなことまで知っている大きな大きな松の木に立派な城を築いて
story. Oh,